Voltaire, dictionnaire philosophique, superstition, section première. Je vous ai entendu dire quelquefois, nous ne sommes plus superstitieux, la réforme du XVIe siècle nous a rendus plus prudents, les protestants nous ont appris à vivre. Et qu'est-ce donc que le sang d'un Saint Janvier que vous liquéfiez tous les ans quand vous l'approchez de sa tête? N'aurait-il pas mieux faire gagner leur vie à 10 000 gueux en les occupant à des travaux utiles que de faire bouillir le sang d'un saint pour les amuser? Songez plutôt à faire bouillir la marmite. Pourquoi bénissez-vous encore dans Rome les chevaux et les mulets à Sainte-Marie-Majeure? Que veulent ces bandes de flagellants en Italie et en Espagne qui vont chantant et se donnant la discipline en présence des âmes? Pense-t-il qu'on ne va en paradis qu'à coups de fouet? Ces morceaux de la vraie croix qui suffiraient à bâtir un vaisseau de 100 pièces de canon, tant de reliques reconnues sont fausses, tant de faux miracles, sont-ils des monuments d'une piété éclairée? La France se vante d'être moins superstitieuse que n'est devenu Saint-Jacques de Compostelle et de vers Notre-Dame de Lorette. Cependant, que de sacristies où vous trouvez encore des pièces de la robe de la Vierge, des roquilles de son lait, des rognures de ses cheveux. Et n'avez-vous pas encore dans l'église du Puy-en-Velay le prépuce de son fils, conservé précieusement? Vous connaissez tous l'abominable farce qui se joue depuis les premiers jours du XVe siècle dans la chapelle de Saint-Louis, au palais de Paris, la nuit de chaque jeudi saint au vendredi. Les possédés du royaume se donnent rendez-vous dans cette église. Les convulsions de Saint-Médard n'approchent pas des horribles simagrées, des hurlements épouvantables, des tours de force que font ces malheureux. On leur donne à baiser un morceau de la vraie croix, enchâssé dans 3 pieds d'or et orné de pierreries. Alors les cris et les convulsions redoublent. On apaise le diable en donnant quelques sous aux énergumènes. Mais pour les mieux contenir, on a dans l'église 50 archers du guet, la baïonnette au bout du fusil. La même exécrable comédie se joue à Saint-Maur. Oh, je vous citerai 20 exemples semblables. Rougissez et corrigez-vous. Il est des sages qui prétendent qu'on doit laisser au peuple ses superstitions comme on lui laisse ses guinguettes, etc. Que de tout temps il a aimé les prodiges, les diseurs de bonne aventure, les pèlerinages et les charlatans. Que dans l'Antiquité la plus reculée, on célébrait Bacchus, sacré, sauvé des eaux, portant des cornes, faisant jaillir d'un coup de sa baguette une source de vin d'un rocher, passant la mer Rouge à pied sec, avec tout son peuple, arrêtant le soleil et la lune, etc. Qu'à Lacédémone on conservait les 2 œufs dont accoucha Léda, pendant à la voûte d'un temple. Que dans quelques villes de la Grèce, les prêtres montraient le couteau avec lequel on avait immolé Iphigénie, etc. Il est d'autres sages qui disent « Aucune de ces superstitions n'a produit du bien. Plusieurs ont fait de grands maux. Il faut donc les abolir. » Superstition, section 2. Je vous prie, mon cher lecteur, de jeter un coup d'œil sur le miracle qui vient de s'opérer en Basse-Bretagne dans l'année 1771 de notre ère vulgaire. Rien n'est plus authentique. C'est imprimé et revêtu de toutes les formes légales. Lisez. Récit surprenant sur l'apparition visible et miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ au Saint-Sacrement de l'autel, qui s'est faite par la toute-puissance de Dieu dans l'église paroissiale de Paimpol et entre Tréguier et Basse-Bretagne le jour des rois. Le 6 janvier 1771, jour des rois, pendant qu'on chantait le salut, on vit des rayons de soleil et lumière sortir du Saint-Sacrement et on aperçut à l'instant notre Seigneur Jésus-Christ en figure naturelle, qui parut plus brillant que le soleil, et qui fut vu une demi-heure entière, pendant laquelle parut un arc-en-ciel sur le faîte de l'Église. Les pieds de Jésus restèrent imprimés sur le tabernacle, où ils se voient encore, et il y opère tous les jours plusieurs miracles. À 4 heures du soir, Jésus ayant disparu de dessus le tabernacle, le curé de la dite paroisse s'approcha de l'autel et y trouva une lettre que Jésus y avait laissée. Il voulut la prendre, mais il lui fut impossible de la pouvoir lever. Ce curé, ainsi que le vicaire, en furent avertir Monseigneur, l'évêque de Tréguier, qui ordonna dans toutes les églises de la ville les prières de 40 heures pendant 8 jours, durant lequel le temps, le peuple allait en foule voir cette sainte lettre. Et au bout de la huitaine, Monseigneur l'évêque y vint en procession, accompagné de tout le clergé séculier et régulier de la ville, après 3 jours de jeûne au pain et à l'eau. La procession étant entrée dans l'église, Monseigneur l'évêque se mit à genoux sur les degrés de l'autel, et après avoir demandé à Dieu la grâce de pouvoir lever cette lettre, il monta à l'autel et la prit sans difficulté. S'étant ensuite tourné vers le peuple, il en fit la lecture à haute voix et recommanda à tous ceux qui savaient lire de lire cette lettre tous les premiers vendredis de chaque mois, et à ceux qui ne savaient pas lire, de dire 5 pater et 5 ave en l'honneur des 5 plaies de Jésus-Christ, afin d'obtenir les grâces promises à ceux qui leur liront dévotement et la conservation des chances de la bien de la terre. Les femmes enceintes doivent dire, pour leur heureuse délivrance, 9 pater et 9 ave, en faveur des âmes du purgatoire, afin que leurs enfants aient le bonheur de recevoir le Saint-Sacrement de baptême. Et tout le contenu de ce récit a été approuvé par Monseigneur l'évêque, par Monsieur le lieutenant-général de la dite ville de Tréguier, et par plusieurs personnes de distinction qui se sont trouvées présentes à ce miracle. Copie de la lettre trouvée sur l'autel lors de l'apparition miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel le jour des rois 1771. Éternité de vie, éternité de châtiment, éternelle délice. Rien n'en peut dispenser. Il faut choisir un parti, ou celui d'aller à la gloire, ou marcher au supplice. Le nombre d'années que les hommes passent sur la terre dans toutes sortes de plaisirs sensuels et de débauches excessives, d'usurpations, de luxe, d'homicides, de larcins, de mécrédisance et d'impureté, blasphémant et jurant son saint nom en vain, et 1000 autres crimes, ne permettent pas de souffrir plus longtemps que des créatures créées à mon image et ressemblance, rachetées par le prix de mon sang, sur l'arbre de la croix où j'ai enduré mort et passion, m'offensent continuellement en transgressant mes commandements et abandonnant ma loi divine. Je vous avertis que si vous continuez à vivre dans le péché et que je ne vois en vous ni remords, ni contrition, ni un sincère et véritable confession et satisfaction, je vous ferai sentir la pesanteur de mon bras divin. Si ce n'était pas les brières de ma chère mère, j'aurais déjà détruit la terre pour les péchés que vous commettez les uns contre les autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler et le 7e pour vous reposer, pour sanctifier mon saint nom, pour entendre la sainte messe et employer le reste du jour au service de Dieu mon Père. Au contraire, on ne voit que blasphèmes et ivrogneries, et le monde est tellement débordé qu'on n'y voit que vanité et mensonges. Les chrétiens, au lieu d'avoir compassion des pauvres qu'ils voient à leur porte et qui sont mes membres pour parvenir au royaume céleste, ils aiment mieux mignarder des chiens et autres animaux et laisser mourir de faim et de soif ces objets en s'abandonnant entièrement à Satan par leur avarice, gourmandise et autres vices. Et au lieu d'assister les pauvres, ils aiment mieux sacrifier tout à leur plaisir et débauche. C'est ainsi qu'ils me déclarent la guerre. Et vous, pères et mères pleins d'iniquité, vous souffrez vos enfants, jurez et blasphémez mon saint nom. Et au lieu de leur donner une bonne éducation, vous leur amassez par avarice des biens qui sont dédiés à Satan. Je vous dis par la bouche de Dieu, mon Père, de ma chère mère, de tous les chérubins et séraphins, et par Saint-Pierre, le chef de mon Église, que si vous ne vous abondez, je vous enverrai des maladies extraordinaires, qui périra tout. Vous ressentirez la juste colère de Dieu, mon Père. Vous serez réduit à un tel état que vous n'aurez connaissance les uns des autres. Ouvrez les yeux et contemplez ma croix que je vous ai laissée pour arme contre l'ennemi du genre humain, et pour vous servir de guide à la gloire éternelle. Regardez mon chef couronné à d'épines, mes pieds et mes mains percés de clous. J'ai répandu jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour votre rédemption, par un pur amour de père pour tous les enfants ingrats. Faites des œuvres qui puissent vous attirer ma miséricorde. Ne jurez pas mon saint nom. Priez-moi dévotement. Jeûnez souvent. Et particulièrement, faites l'aumône aux pauvres qui sont des membres, car c'est de toutes les bonnes œuvres celle qui m'est la plus agréable. Ne méprisez ni la veuve ni l'orphelin. Restituez ce qui ne vous appartient pas. Fuyez toutes les occasions de péché. Gardez soigneusement mes commandements, honorez Marie, ma très chère mère. Ceux ou celles qui ne profiteront pas des avertissements que je leur donne, qui ne croiront pas à mes paroles, attireront par leur obstination mon bras vengeur sur leur tête. Ils seront accablés de malheurs, qui seront les avant-coureurs de leur fin dernière et malheureuse, après laquelle ils seront précipités dans les flammes éternelles, où ils souffriront des peines sans fin, qui sont le juste châtiment réservé à leurs crimes. Et au contraire, ceux ou celles qui feront un saint usage des avertissements de Dieu, qui leur sont donnés par ses lettres, apaiseront sa colère et obtiendront de lui, après une confession sincère de leurs fautes, la rémission de leurs péchés, tant grand soit-il. Il faut garder soigneusement cette lettre en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec permission, à Bourges, le 30 juillet 1771, de Beauvoir, lieutenant général de police. Nota bene. Il faut remarquer que cette sottise a été imprimée à Bourges, sans qu'il n'y ait eu ni Tréguier ni à Paimpol le moindre prétexte qui pût donner lieu à une pareille imposture. Cependant, supposons que, dans les siècles à venir, quelque cuistre à miracle veuille prouver un point de théologie par l'apparition de Jésus-Christ sur l'autel de Paimpol, ne se croira-t-il pas en droit de citer la propre lettre de Jésus, imprimée à Bourges, avec permission? Ne traiterait-il pas d'impie ceux qui en douteront? Ne prouvera-t-il pas, par les faits, que Jésus opérait partout des miracles dans notre siècle? Voilà un beau champ ouvert aux Hauteville et aux Abadies. Superstition, section 3. Nouvel exemple de la superstition la plus horrible. Ils avaient communié à l'autel de la Sainte Vierge, ils avaient juré à la Sainte Vierge de massacrer leur roi, ces 30 conjurés qui se jetèrent sur le roi de Pologne la nuit du 3 novembre de la présente année 1771. Apparemment, quelqu'un des conjurés n'était pas entièrement en état de grâce quand il reçut dans son estomac le corps du propre fils de la Sainte Vierge, avec son sang sous les apparences du pain, et qu'il fit serment de tuer son roi, ayant son cœur dans sa bouche, car il n'y a que deux domestiques du roi de tuer. Les fusils et les pistolets tirés contre sa majesté le manquèrent. Il ne reçut qu'un léger coup de feu au visage et plusieurs coups de sabre qui ne furent pas mortels. C'en était fait de sa vie si l'humanité n'avait pas enfin combattu la superstition dans le cœur d'un des assassins nommé Kolsinski. Quel moment quand ce malheureux dit à ce prince tout sanglant « Vous êtes pourtant mon roi !»« Oui, lui répondit Stanislas Auguste, et votre bon roi qui ne vous a jamais fait de mal. » « Cela est vrai, dit l'autre, mais j'ai fait serment de vous tuer. » Ils avaient juré devant l'image miraculeuse de la Vierge Alcestroskova. Et voici la formule de ce beau serment. « Nous qui, excités par un zèle saint et religieux, avons résolu de venger la divinité, la religion et la patrie outragées par Stanislas Auguste, contenteur des lois divines et humaines, et fauteur des athées et des hérétiques, etc., jurons et promettons devant l'image sacrée et miraculeuse de la Mère de Dieu, etc., d'extirper de la terre celui qui la déshonore en foulant aux pieds la religion, etc. Dieu nous soit en aide. C'est ainsi que les assassins de Sforza et de Médicis et que tant d'autres saints assassins faisaient dire des messes ou la disaient eux-mêmes pour le succès de leur entreprise. La lettre de Varsovie, qui fait le détail de cet attentat, ajoute « Les religieux, qui emploient leur pieuse ardeur à faire ruisseler le sang et ravager la patrie, ont réussi en Pologne comme ailleurs à inculquer à leurs affiliés qu'il est permis de tuer les rois. » En effet, les assassins s'étaient cachés dans Varsovie pendant 3 jours chez les révérends pères dominicains. Et quand on a demandé à ces moines complices pourquoi ils avaient gardé chez eux 30 hommes armés sans en avertir le gouvernement, ils ont répondu que ces hommes étaient venus pour faire leur dévotion et pour accomplir un vœu. Oh, tant des Jean Chastel, des Guignards, des Rodovis, des Poltrot, de Ravaillac, des Damien, des Malagrida, vous revenez donc encore. Sainte Vierge et vous, son digne fils, empêchez qu'on abuse de vos sacrés noms pour commettre le même crime. Monsieur Jean-Georges Lefranc, évêque depuis Enlève-Valais, dit dans son immense pastoral aux habitants du Puy, pages 258 et 259, que ce sont les philosophes qui sont des séditieux. Et qui accuse-t-il de sédition, lecteur? Vous serez étonné. C'est Locke, le sage Locke lui-même. Il le rend complice des pernicieux desseins du comte de Shaftesbury, l'un des héros du parti philosophiste. Ah, monsieur Saint-Georges, combien de méprises en peu de mots. Premièrement, vous prenez le petit-fils pour le grand-père. Le comte Shaftesbury, l'auteur des caractéristiques et des recherches sur la vertu, ce héros du parti philosophiste, mort en 1713, cultiva toute sa vie les lettres dans la plus profonde retraite. Et secondement, le grand chancelier Shaftesbury, son grand-père, à qui vous attribuez des forfaits, passe en Angleterre pour avoir été un véritable patriote. Troisièmement, Locke est révéré dans toute l'Europe comme un sage. Je vous défie de me montrer un seul philosophe, depuis Zoroastre jusqu'à Locke, qui ait jamais excité une sédition, qui est trempé dans un attentat contre la vie des rois, qui est troublé la société. Et malheureusement, je vous trouverai 1000 superstitieux, depuis Aon jusqu'à Kosinski, teint du sang des rois, de celui des peuples. La superstition met le monde entier en flammes. La philosophie les éteint. Peut-être ces pauvres philosophes ne sont-ils pas assez dévots à la Sainte Vierge, mais ils le sont à Dieu, à la raison, à l'humanité. Polonais, si vous n'êtes pas philosophe, du moins ne vous égorgez pas. Françaises et Belges, réjouissez-vous et ne vous querellez plus. Espagnols, que les noms d'Inquisition et de Sainte-Hermandade ne soient plus prononcés parmi vous. Turcs qui avez asservi la Grèce, moines qui avez abruti, disparaissez de la terre. Superstition, section 4. Chapitre tiré de Cicéron, de Sénèque et de Plutarque. Presque tout ce qui va au-delà de l'adoration d'un être suprême et de la soumission du cœur à ses ordres éternels est superstition. C'en est une très dangereuse que le pardon des crimes attachés à certaines cérémonies. Vous pensez que Dieu oubliera votre homicide si vous vous baignez dans un fleuve, si vous immolez une brebis noire, et si on prononce sur vous des paroles. Un second homicide vous sera donc pardonné au même prix, et ainsi un troisième, et 100 meurtres ne vous coûteront que 100 brebis noires et 100 ablutions. Faites mieux, misérables humains, point de meurtres et point de brebis noires. Quelle infâme idée d'imaginer qu'un prêtre d'Isis et de Cybèle, en jouant des cymbales ou des castagnettes, vous réconciliera avec la divinité. Et qu'est-il donc, ce prêtre de Cybèle, cet eunuque errant, qui vit de vos faiblesses, pour s'établir médiateur entre le ciel et vous? Quelle patente a-t-il reçue de Dieu? Il reçoit de l'argent de vous pour marmotter des paroles. Et vous pensez que l'être des êtres ratifie les paroles de ce charlatan? Il y a des superstitions innocentes. Vous dansez les jours de fête en l'honneur de Diane ou de Pomone, ou de quelques-uns de ces dieux secondaires dont votre calendrier est rempli. À la bonne heure! La danse est très agréable, elle est utile au corps, réjouit l'âme, elle ne fait de mal à personne. Mais n'allez pas croire que Pomone et Veram et Vertum vous savent beaucoup de gré d'avoir sauté en leur honneur et que vous punissent d'y avoir manqué. Il n'y a d'autres Pomone ni d'autres Vertum que la sèche et le hoyau du jardinier. Ne soyez pas assez imbécile pour croire que votre jardin sera grêlé si vous avez manqué de danser la pyrrhique ou la colose. Ah, il y a peut-être une superstition pardonnable et même encourageante à la vertu. C'est celle de placer parmi les dieux les grands hommes qui ont été les bienfaiteurs du genre humain. Il serait mieux, sans doute, de s'en tenir les regards simplement comme des hommes vénérables et surtout de tâcher de les imiter. Vénérer sans culte un Solon, un Thalès, un Pythagore, mais n'adorez pas un Hercule pour avoir nettoyé les écuries d'Augias et pour avoir couché avec 50 filles dans une nuit. Gardez-vous surtout d'établir un culte pour des gredins qui n'ont eu d'autre mérite que l'ignorance, l'enthousiasme et la crasse, qui se sont fait un devoir et une gloire de l'oisiveté et de la gueuserie, ceux qui ont été au moins inutiles pendant leur vie, mêlent-ils l'apothéose après leur mort? Remarquez que les temps les plus superstitieux ont toujours été ceux des plus horribles crimes. Superstition, section 5. Le superstitieux est au fripon ce que l'esclave est au tyran. Il y a plus encore. Le superstitieux est gouverné par le fanatique et le devient. La superstition, née dans le paganisme, adoptée par le judaïsme, infecta l'Église chrétienne dès les premiers temps. Tous les pères de l'Église, sans exception, crurent au pouvoir de la magie. L'Église condamna toujours la magie, mais elle y crut toujours. Elle n'excommunia point les sorciers comme des fous qui étaient trompés, mais comme des hommes qui étaient réellement en commerce avec des diables. Aujourd'hui, la moitié de l'Europe croit que l'autre a été longtemps et est encore superstitieuse. Les protestants regardent les reliques, les indulgences, les macérations, les prières pour les morts, l'eau bénite et presque tous les rites de l'Église romaine comme une démence superstitieuse. La superstition, selon eux, consiste à prendre des pratiques inutiles pour des pratiques nécessaires. Parmi les catholiques romains, il y en a de plus éclairés que leurs ancêtres, qui ont renoncé à beaucoup de ces usages autrefois sacrés. Et ils se défendent sur les autres, qu'ils ont conservés en disant « Ils sont indifférents, et ce qui n'est qu'indifférent ne peut être un mal. » Il est difficile de marquer ces bornes de la superstition. Un Français voyageant en Italie trouve presque tout superstitieux et ne se trompe guère. L'archevêque de Canterbury prétend que l'archevêque de Paris est superstitieux. Les presbytériens font la même reproche à M. de Canterbury et sont à leur tour traités de superstitieux par les Quakers, qui sont le plus superstitieux de tous aux yeux des autres chrétiens. Personne ne convient donc chez les sociétés chrétiennes de ce que c'est que la superstition. La secte qui semble le moins attaquée de cette maladie de l'esprit est celle qui a le moins de rites. Mais si avec peu de cérémonies, elle est fortement attachée à une croyance absurde, cette croyance absurde équivaut à elle seule à toutes les pratiques superstitieuses observées depuis Simon le magicien jusqu'au curé Graffiti. Il est donc évident que c'est le fond de la religion d'une secte qui passe pour superstition chez une autre secte. Les musulmans en accusent toutes les sociétés chrétiennes et en sont accusés. Qui jugera ce grand procès? Sera-ce la raison? Mais chaque secte prétend avoir la raison de son côté. Ce sera donc la force qui jugera, en attendant que la raison pénètre dans un assez grand nombre de têtes pour désarmer la force. Par exemple, il a été un temps dans l'Europe chrétienne où il n'était pas permis à de nouveaux époux de jouir des droits du mariage sans avoir acheté ce droit de l'évêque et du curé. Quiconque dans son testament ne laissait pas une partie de son bien à l'Église était excommunié et privé de la sépulture. Cela s'appelait mourir déconfit, c'est-à-dire ne confessant pas la religion chrétienne. Et quand un chrétien mourait intestat, l'Église relevait le mot de cette communication en faisant un testament pour lui, en stipulant et en se faisant payer le lait pieux que le défunt aurait dû faire. C'est pourquoi le pape Grégoire IX et Saint Louis ordonnèrent, après le concile de Narbonne, tenu en 1235, que tout testament auquel on n'aurait pas appelé un prêtre serait nul. Et le pape décerna que le testateur et le notaire seraient excommuniés. La taxe des péchés fut encore, s'il est possible, plus scandaleuse. C'était la force qui soutenait toutes ces lois auxquelles se soumettait la superstition des peuples. Et ce n'est qu'avec le temps que la raison fit abolir ces honteuses vexations dans le temps qu'elle en faisait subsister d'autres. Jusqu'à quel point la politique permet-elle qu'on ruine la superstition ? Cette question est très épineuse. C'est demander jusqu'à quel point on doit faire la ponction à un hydropique qui peut mourir dans l'opération. Cela dépend de la prudence du médecin. Peut-il exister un peuple libre de tout préjugé superstitieux ? Mais c'est demander, peut-il exister un peuple de philosophes ? On dit qu'il n'y a nulle superstition dans la magistrature de la Chine. Il est vraisemblable qu'il n'en reste aucun dans la magistrature de quelques villes d'Europe. Alors, ces magistrats empêcheront que la superstition du peuple ne soit dangereuse. Mais l'exemple de ces magistrats n'éclairera pas la canaille, mais les principaux bourgeois la contiendront. Il n'y a peut-être pas un seul tumulte, un seul attentat religieux, où les bourgeois n'aient autrefois trempé, parce que ces bourgeois alors étaient canailles. Mais la raison et le temps auront changé. Leurs mœurs adoucies adouciront celles de la plus vile et de la plus féroce populace. C'est de quoi nous avons des exemples frappants dans plus d'un pays. En un mot, moins de superstition, moins de fanatisme. Et moins de fanatisme, moins de malheur.